Avant de venir à nouveau, j'ai eu un temps, un moment de réflexion et me suis dit combien c'est une chose précieuse que de pouvoir être ensemble et pratiquer pour comprendre l'enseignement du Bouddha, avoir le temps et puis l'incarner. C'est une chose que de pouvoir le lire, le vivre au quotidien, et on sait combien ceci est précieux, mais dans une situation comme celle-ci, c'est évident que on perçoit, et j'ai la chance de pouvoir être la témoin de percevoir l'éclosion du Dharma en vous, et c'est vraiment magnifique de pouvoir être dans cette position. Il y a un terme qui s'intitule paramita, et ça désigne dans le bouddhisme la pratique d'une vertu qui est pratiquée et qui est appliquée et qui est menée vers sa perfection. Et ces paramis sont des qualités qui se développent tout au long du chemin et qui nous permettent d'accéder à l'éveil. Il est dit que le Bouddha, avant de devenir Bouddha, il était Bodhisattva, et pendant des éons, c'est-à-dire des nombres d'années incalculables, il a développé ses paramis. Donc il y a toute cette dimension qui est traduite pour ce qui est décrit comme atteindre l'autre rive. Atteindre l'autre rive dans le sens de l'éveil. Et ce terme de paramita, il est composé de para, qui veut dire rive, et puis mita, qui est au-delà. Donc ce sont les qualités perfectionnées lorsque un être atteint l'éveil. Elles sont naturellement perfectionnées. Et puis nous pouvons aussi, dans un cheminement en conscience, les développer. C'est ce qu'on a fait et c'est toujours ce qu'on est en train de faire puisqu'on est en retraite. Et métaphoriquement, on dit qu'on navigue sur une rivière. C'est la rivière de la vie, on peut dire, hein, et sur un radeau. Et on est sur ce radeau, on a parlé du courant de la rivière. Et on va, je l'espère pour vous et pour moi, atteindre un jour l'autre rive et pouvoir quitter le radeau, parce qu'il ne sert à rien de conserver le radeau une fois qu'on a atteint l'autre rive, celle de la libération de la souffrance, la libération complète de la souffrance. En attendant, on peut percevoir et certainement sentir celle de la diminution de la souffrance, et on peut parler en termes positifs, plus de paix intérieure. Donc on peut dire qu'on rend notre radeau plus stable, qu'on peut naviguer dans les eaux profondes, tumultueuses, et qu'il y a plus de force en nous, plus de stabilité par rapport au périple de la vie, au tumulte de la vie. Donc ceci est une métaphore qui va naturellement pouvoir nous parler à différents moments de notre existence. Donc il y a deux sortes de paramis. C'est parfaire l'esprit par la méditation, et c'est ce qu'on a vraiment exploré et ce qu'on explore encore, cette dimension de pureté de la sagesse qui conduit à l'éveil. Et puis il y a aussi cette autre dimension de paramis qui est de parfaire notre comportement. Donc on parle de la pureté de la sagesse et de la pureté du comportement ou de la conduite qu'on peut mener dans ce monde. Et ces deux, bien sûr, sont reliés. C'est la manière dont on peut engager quelque part le processus, le cheminement intérieur, dans le contact à la vie. Donc, la manière dont on peut aussi prendre soin en rapport avec le monde, avec autrui. Donc, il y a ces deux dimensions et que naturellement, quand on développe ces qualités, elles sont plus accessibles et qu'elles se développent ici. C'est une évidence. Donc, je vais les énumérer et elles sont traduites et c'est très intéressant qu'elles ne correspondent pas tout à fait dans le Theravada ou dans le Mahayana. Donc, on nomme le petit véhicule et le grand véhicule. Donc, en termes pali, il y en a 10. Et vous verrez que on les cultive toutes. La première est le Dana Paramita, qui est la paramita de la générosité, ce don. Et puis la deuxième est Sila Paramita, qui est la vertu, vivre une vie éthique. La troisième paramita se nomme Nekama, qui est ici le non-attachement des plaisirs mondains. Quatrième, Panya, c'est la sagesse, la juste compréhension de la vie. La cinquième, c'est Virya, dont j'ai parlé un soir, il y a quelque temps, l'énergie, l'effort. Et ici, c'est surtout dans le sens de ne pas être découragé lorsqu'il y a des difficultés. Donc, vraiment pouvoir mettre l'énergie, l'effort, même quand c'est difficile. La sixième, Kanti, c'est la patience. Et il y a aussi cette dimension de tolérance, de pouvoir tolérer à nouveau ici les hauts et les bas de la vie. Donc, cette patience, elle va vraiment être le vecteur pour l'équanimité, pouvoir demeurer en équilibre. La septième, qui est Satcha, c'est d'être sincère, honnête, face à soi-même et les autres, d'avoir une conduite droite. La huitième, Adhidhana, la détermination, résolution, détermination, persévérance, dans le sens de progresser sur le chemin, de ne pas l'abandonner. Et dans ce sens-là, on peut vraiment aussi concevoir l'intention, qu'on peut nourrir les intentions, qu'on peut travailler des facteurs de détermination lors de différentes pratiques. La neuvième, c'est metta. La paramita de metta, qui est donc cet amour bienveillant envers soi et les autres. Et la dixième, upekkha, qui est l'équanimité, la sérénité, développer un équilibre mental. Donc vous voyez que vous êtes d'accord avec moi que vraiment toutes, on a tenté, on s'est à donner, à les cultiver et qu'on les a nourris. Donc on peut se poser la question, où trouve-t-on ces paramis? Eh bien, selon les recherches de plusieurs érudits, elles sont apparentes d'une manière très claire dans les jataka, qui sont ces contes pour enfants qu'on voit les histoires sous forme de contes et on a toutes les vies antérieures du Bouddha. Et il était animal, éléphant, singe, toutes sortes, et donc spécialement celle du Bouddha historique Shakyamuni. Et ils ont fait des recherches, donc ces érudits, et ils ont pu voir quelque part que ces Jataka sont des textes assez tardifs. En réalité, 5e siècle après Jésus-Christ, et on peut en déduire quelque part que il semble qu'il fût nécessaire qu'on représentât ces qualités à perfectionner au sein de la vie. Donc, ils sont vraiment destinés, quelque part au laïc, et pas uniquement dans un contexte de méditation, par exemple, pour se libérer du cycle du samsara. Donc, que ça s'intègre comme pratique à explorer et à exercer dans la vie courante. Et très souvent, c'est incroyable combien j'ai eu d'enseignements des paramis, et chaque paramis est visité, revisité, exploré dans les différents centres de méditation où j'ai pratiqué. Et on comprend bien que quelque part, c'est comme si on avait des, des dispositions d'esprit et qu'on peut cultiver ces qualités au sein du monde. Donc le développement de la sagesse, comme on l'a fait et comme on le fait encore, pour pouvoir vraiment y voir clair, et quelque part l'axe, mais qu'ensuite il est tout à fait souhaitable de nourrir ces différentes qualités au contact des êtres. Et donc ce soir, j'aimerais juste dire quelques mots sur la première de ces qualités. Je parlais de l'énergie et de l'effort un soir, de l'équanimité un autre soir, à d'autres reprises de la patience, la persévérance. Et c'est vrai que vous pourrez trouver passablement de ces enseignements sur le site, car dans un contexte de retraite de ville, par exemple, elles sont explorées et on les explore ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun, chacune, et celles qui sont peut-être un petit peu plus faciles, d'autres un petit peu plus difficiles. Et c'est fascinant de se rendre compte, c'est très vivant de voir, tiens, où je me situe là, qu'est-ce qui se passe, et lesquelles sont tout à fait accessibles et d'autres un petit peu moins peut-être. Donc, dans un sutra, le Bouddha aurait dit, il y a deux types de personnes qui sont rares dans ce monde. Il y a deux types de personnes qui sont rares dans ce monde. Celle qui, la première, est prête à rendre service et celle qui est reconnaissante d'un service rendu. Donc, il y a vraiment cette disposition de générosité, il n'y a pas de générosité sans gratitude. Il y a vraiment cette disposition des deux dimensions. Et donc, cette qualité de générosité est l'expression d'un lâcher-prise. Et on a beaucoup parlé de non-saisie et que tout le sens du chemin va dans le sens de la non-saisie, du relâchement, bien sûr, de la saisie de l'ego. Et que la forme, l'expression, la manifestation dans notre vie est quelque part cette dimension de générosité. Donc on peut se dire, mais en fait, il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est l'état d'esprit. La manifestation, l'expression dans l'enseignement est la générosité. Elle s'exprime en action. Donc lorsque on est conscient de l'état d'esprit, c'est évident que ça va nous aider et que c'est cette proposition que nous donne le chemin du Dharma. Donc il y a de toute évidence ici une implication, c'est celle de dépasser cette notion du moi étriqué, limité et qui naturellement diminue la tendance et la possibilité, le potentiel d'ouverture et de largesse d'esprit. Donc c'est complètement orienté dans une direction opposée à être centré uniquement sur soi. Et donc dans cet esprit du Dharma, ça va dans le sens de la libération de la souffrance pour soi-même et pour autrui. Donc, tout acte de générosité est de toute évidence le fondement de cet enseignement du lâcher-prise. Et il y a une citation qui parle dans ce sens. Il dit, oh, le Bouddha, c'est moi, le moine, si les gens savaient comme je le sais les fruits du partage des dons, il ne s'octroierait aucun bien sans préalablement les partager. Ainsi, les tâches nées de la cupidité n'obséderaient pas leur cœur. Même s'ils devaient absorber leur dernière morse de nourriture, ils ne pourraient l'apprécier sans avoir l'intention de la partager. Donc, il y a cette disposition d'esprit qui fait que même dans une pensée, dans une réflexion, lorsque ce n'est pas fait d'une manière précise et concrète, on peut à même moment avoir cet état d'esprit qui fait qu'on cultive la générosité, de partager quelque chose avec autrui. Donc, il y a cette dimension de bienveillance qui naturellement nous dispose à une attitude d'ouverture par rapport à l'autre. L'action elle-même est le lâcher-prise et la générosité coupe radicalement les méfaits de la petitesse, l'étroitesse d'esprit. Donc on peut se rendre compte qu'il y a vraiment une perspective qui est complètement reliée dans le sens du non-attachement dont on a parlé encore et encore et encore à maintes et maintes reprises et qui prend beaucoup de forme. Maintenant, dans l'enseignement que j'ai reçu, et je le traduis là, puisque généralement ce qu'on reçoit, on peut aussi l'offrir, il y a différents modes d'offrande. Et je vais dire juste quelques mots à ce sujet. Il y a naturellement faire des offrandes sous la forme habituelle, qui sont les offrandes matérielles. Il y a les offrandes sous la forme de protection. Protéger une personne de toute forme de danger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui va dans le sens d'une situation où on peut aider et c'est pas quelque chose de spécial. Mais déjà d'avoir suffisamment d'ouverture et d'être soucieux de ce qui se passe autour de soi aujourd'hui, par moment, eh bien, c'est pas évident. Une personne qui va naturellement regarder autour d'elle, et c'est ce qui s'est passé l'autre jour où il y avait un malvoyant qui... moi, j'étais de l'autre côté du trottoir, puis je regardais, puis j'attendais, puis la personne cherchait à traverser. Et puis, en fait, ça a duré quelques minutes. Puis je me suis dit, ben, y a bien quelqu'un qui va voir. Puis en fait, non, les gens étaient tellement pressés. Je ne crois pas que c'était du tout une mauvaise attitude. C'est simplement qu'il y avait de l'empressement. Puis donc, ben voilà. Le mouvement naturel, c'était de traverser, d'aider cette personne. Puis c'est ça qui est très intéressant. C'est donc cette forme de protection. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, faire des offrandes sous la forme de protection. Faire des offrandes sous la forme de la pratique du dharma, c'est-à-dire éveiller son potentiel en tant qu'être humain et pratiquer comme on le fait ici. C'est une offrande pour le monde, pour les autres, pour autrui. Donc ça, ce sont les différentes formes d'offrande. Ensuite, il est dit que il y a des dons qui servent à la fois à la personne qui fait le don et à la personne qui le reçoit. Donc là, il y a vraiment un lien entre le donateur et le donataire. Donc c'est évident que il y a des dons qui servent à la fois aux deux, comme la nourriture, la médecine, le don de la protection. Les deux sont... reliés. Il y a des dons qui servent aux donateurs, mais pas aux donataires. Comme ce qu'on fait ici, par exemple, lorsqu'on a cette attitude d'offrir, par exemple, des fleurs ou une bougie ou une offrande à la statue du Bouddha, eh bien, cette forme de don, elle procure des bienfaits à celui qui donne, qui fait l'offrande. Et donc, là, il y a plusieurs formes de dons qui sont propices pour le donateur. C'est quelque part le lâcher prise en faisant l'offrande. Et puis il y a aussi toute cette dimension dont on pourrait parler très longuement, qui est la manifestation du respect et de la dévotion. Cette dimension, par exemple, de mettre les mains en Anjali et puis simplement d'avoir ce geste devant un autel qui exprime de la gratitude, du respect, ou les uns envers les autres, est une forme de don. Donc si on fait ce don de l'offrande du respect entre nous, c'est évident que le donateur et le donataire sont tous deux... Il y a des dons qui servent au donateur et pas au donateur. Et ça, c'est vraiment la forme de don qui est faite par le Bouddha. S'il y a un être qui est Bouddha, c'est évident que lui, il a parfait son chemin, qu'il est passé l'autre rive, donc il n'a plus besoin, quelque part, de cumuler des bienfaits. Donc, on dit que le don qui est fait par une personne éveillée ou réalisée à une personne non éveillée est exactement l'inverse. Ça sert au donateur et pas au donateur. Maintenant, il y a des formes. Il y a un terme qui s'appelle dana, qui est l'acte de donner. Quand on fait une offrande, on dit on fait un dana. Et il y a un autre mot qui est le mot de kaga et qui est l'état d'esprit avec lequel on fait le don. Donc l'état d'esprit de la personne, dans quel état d'esprit on est. On peut très bien donner quelque chose lorsqu'on veut se débarrasser. L'autre jour, j'ai vidé mes armoires et il n'y avait vraiment rien à donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je les ai données à la poubelle. C'est évident que je voulais me débarrasser de vieux habits. Et que l'attitude de la générosité dans mon état d'esprit, c'était simplement, ok, lâcher prise. Mais il n'y avait pas forcément l'état d'esprit du don à naître. Donc, cette attitude de générosité implique qu'on peut se rendre compte quelle est la force motrice dans l'esprit lui-même. Donc, tout au long, il y a cette dimension de présence, d'attention. Et c'est très intéressant. Moi, je trouve fascinant lorsqu'on est dans une disposition à rendre service à quelqu'un, faire un coup de fil ou, je ne sais, apporter une offrande ou voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et ça ne veut pas du tout dire qu'une manière est étriquée, mais la motivation qui dirige l'action est quelque chose dont on peut prendre compte. Et puis, bien sûr, dans ce registre de cheminement du lâcher-prise, cette dimension d'aller à la perfection, c'est l'intention qui est désintéressée, qui est la plus souhaitable. Donc, pas essayer d'attendre quelque chose en retour. Donc, cette dimension de désintérêt, ça se situe aussi pour Metta, ça se situe aussi pour beaucoup d'autres qualités où il n'y a pas cet aspect de moi, je, qu'est-ce que je vais obtenir. C'est évident qu'il y a une ouverture, une largesse d'esprit. C'est, on peut dire, pas calculé. Donc il y a progressivement, le Bouddha mentionne dans un de ses sutras, deux qualités qui sont nécessaires pour que on puisse vraiment aller dans le sens d'un cheminement qui va nous amener à l'éveil à l'autre rive. C'est l'abandon du calcul de l'intérêt pour soi-même. Qu'est-ce que je peux obtenir en retour? Et puis c'est étendre l'action qui serait faite habituellement. C'est-à-dire qu'on pratique avec l'attention du lâcher prise. L'ouverture. Il y a une petite histoire qui se raconte dans les milieux du Dharma quand on pratiquait en Orient. Et puis, il y avait une jeune femme, une occidentale, qui pratiquait dans le même centre et qui m'a raconté l'histoire suivante. Elle avait pratiqué au Sri Lanka dans les années, je pense, 70. Je ne suis pas sûre que ce soit même 80. C'était vraiment un des premiers centres qui accueillait les occidentaux. Et puis, cette jeune femme avait passé du temps en Inde, donc elle avait un beau châle en pashmina. Vous savez ce que la laine pashmina, c'est laine cachemire, mais de la plus belle qualité, qu'elle portait parce qu'il faisait assez frais, c'était les mois d'hiver. Et puis, elle était dans ce beau centre qui est sur des hectares de plantations de thé. Et puis un jour, un matin, elle pratiquait sur sa colline à l'extérieur avec son châle. Et puis elle a vu une cueilleuse de thé. Et puis apparemment, dans son esprit à elle, cette femme avait froid. Donc elle lui a offert son beau châle généreusement pour qu'elle ait chaud. Et puis quelques jours plus tard, elle a vu son magnifique châle de pashmina utilisé comme battoir pour frapper le linge à la rivière, qui était fort utile forcément pour cette femme, mais qui naturellement n'était pas la raison pour laquelle elle l'avait offert. Et donc c'était très intéressant de voir, c'est une petite histoire qui tourne dans les milieux du Dharma, et donc de percevoir son esprit à ce moment-là. Être quelque chose de fabuleux. Et tous ces paramis, je crois que c'est vraiment un travail toujours en cours. Je veux dire, si on le place en tant qu'idéal, on va prendre vraiment de la peine. Donc, c'est extraordinaire, mais c'est aussi pouvoir se rendre compte que il y a tout un cheminement qui peut être exploré et que toutes ces qualités continuent d'émerger dans notre vie au quotidien. On peut continuer de les nourrir. Les deux formes d'obstacles et qui empêchent, qui sont, si on veut, quelque part l'opposé de la générosité, et empêchement, l'opposé l'autre, c'est l'avarice et l'indifférence. Donc c'est évident que l'avarice, c'est le sentiment d'étroitesse d'esprit et qu'on peut naturellement, à un moment donné, comme tout est processus organique et que tout bouge tout le temps, il se peut qu'il y ait cette dimension d'étroitesse un instant. Qualité de présence, conscience, oups, voilà, ouverture, lâcher prise, et que l'instant d'après, ceci se transforme complètement en disponibilité, possibilité de cheminement, et donc on peut rééquilibrer notre état intérieur. Rien n'est fixe, rien n'est figé, et se resituer. De l'avarice, Et un petit texte de Eric Emmanuel Schmitt. Il dit: je la place très haut parce que c'est un péché qui en engendre beaucoup d'autres. Grégoire le Grand parlait des sept filles de l'avarice: la trahison, la fraude, la tromperie, le parjure, l'inquiétude, la violence et la dureté du cœur. Pas rien. Il dit: l'avare instrumentalise en effet l'autre, qui est nié dans son humanité et qui ne représente à ses yeux que l'occasion d'alimenter son vice. L'avarice conduit à ce que je considère comme le plus grand des maux, l'indifférence. Et on lui demande spontanément: à quelle figure réelle ou fictionnelle vous fait penser la notion d'avarice? Et il répond: à un oncle qui était tellement avare qu'il s'essuyait toujours les pieds sur le paillasson de son voisin. Dans sa vie, tout était à l'avenant. Il était froid comme de la cendre, vivait chaque fête de famille comme une agression, car il allait devoir dépenser du temps, donner un peu de joie de vivre, et cela lui était insupportable. Et donc cette dimension d'avarice qui mène à l'indifférence. Cette indifférence, eh bien, on peut l'apercevoir un peu fréquemment de nos jours. Enfin, ça changera rien. Bof, à quoi bon? Et quelque part, il y a comme un argument faussé là. C'est l'indifférence qui est l'ennemi proche, mais quand même complètement opposé. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ennemi dans les textes anciens, traditionnels, de l'équanimité. C'est donc quelque part un état d'esprit qui est complètement différent et qui peut s'apparenter à l'équanimité, mais où il y a vraiment quelque part de l'apathie, un désintérêt, un manque d'engagement et puis de la résignation. C'est quelque part cette indifférence qui augmente l'isolement. Donc ça, c'est très intéressant que la générosité va nous aider à sortir de l'indifférence et de cette apathie. Et c'est exactement cette attitude et c'est cette générosité, c'est extraordinaire combien ça a été riche et de cultiver cette qualité-là au contact des jeunes qui viennent au Dharma, les jeunes ados par exemple, et qui sont en souffrance de par leur isolement. Et qu'il y a toute une exploration qui a été faite lorsque j'étais aux États-Unis et que j'y enseignais par rapport à leur donner une source de plus grande dynamique. Et c'est fabuleux le web, le réseau d'action qui a pu être mis en place par rapport à cette qualité-là. Donc, chaque action positive, elle a naturellement cette valeur de pouvoir porter un fruit positif. Et donc, une des manières aussi ici, c'est de faire la dédicace de nos bonnes actions. Donc, de la même manière qu'on peut faire une prise de conscience, une réflexion pour la motivation, cette détermination, puis-je pratiquer pour le bien de tous les êtres, par exemple, je peux aussi dédier les bienfaits de mes actions. Et le Bouddha dit, c'est comparable à verser une goutte dans l'océan. Elle ne se perd jamais. Aussi petite soit l'action, comme une goutte. Ouais. Elle a son importance. Donc on peut investiguer. Moi, je sais que pour ma part, il y a des situations où c'est plus difficile d'être généreux. Et je peux maintenant plus ou moins parler au passé, bien que des fois, comme vous le savez, il y a des attitudes qui reviennent. Mais tiens, des situations où c'est un petit peu plus difficile d'être généreuse ou de pratiquer l'offrande. Et j'ai eu véritablement à explorer ceci. Et je crois que pour chacun, chacune, l'investigation, c'est une excellente chose. Et j'ai eu une gêne, par exemple, pendant longtemps, vis-à-vis des mendiants. Et exactement comme je viens de l'expliquer, non pas une attitude d'avarice, mais d'indifférence, une attitude intérieure d'indifférence ou du déni de leur existence. Et puis, c'est très intéressant parce que, voilà, comme tout travail en cours, eh ben, j'ai exploré. Qu'est-ce qui se passe en moi dans cette dimension-là? Puis j'ai réalisé que, en réalité, ça venait de très loin. Comme beaucoup de choses, ça vient d'une histoire lointaine. Et que, comme je vous l'ai déjà dit, grandissant en Afrique, et toute petite, hein, depuis pratiquement la naissance, ben, les mendiants étaient nombreux. Et puis, c'était très souvent, je me rappelle très bien, de lépreux ou de personnes à qui manquait un membre, par exemple. Donc, je peux imaginer que pour la petite fille que j'étais, waouh, c'était vraiment une vision difficile à supporter. Et c'était très intéressant de voir que finalement, quand j'ai revisité dans mon intériorité, et bien des années plus tard et aussi en méditation, il y avait tout simplement un voile. Et derrière ce voile, il y avait de la peur. Et que j'ai pu commencer à explorer, découvrir, après accueillir cette peur, et puis à le mettre en contexte. Exactement, relier et avoir ces associations d'idées pour pouvoir me rendre compte de ce qui se passait. Et puis, bien sûr, cette dimension de situation-là, elle a complètement évolué. Tant et si bien qu'il n'y a pas très longtemps, j'allais enseigner au centre où on enseigne des fois à Lausanne. Et puis, il y a un pont sur lequel on marche. Et puis, sur ce pont, il y avait un mendiant ce jour-là et je me suis arrêtée pour le saluer, échanger deux, trois mots. Puis il était tellement souriant et content. Et il ne m'a pas du tout remercié pour les quelques pièces que je lui ai mis. Il m'a remercié, il était tellement touché. Il a dit, mais oh, quelqu'un qui me sourit. C'était tellement touchant. Il dit, vous êtes la première personne, ça fait des heures que je suis là. Et c'était vraiment poignant, forcément, qu'une situation comme ça, wow, ça tire les larmes. Et puis, on a échangé encore quelques mots. Et dans mes mots, j'ai traduit quelque part, c'était tellement important d'être vu, d'être reconnu comme être humain. Tout simplement ça. Donc là, voilà, il y avait un réel contact, un moment, une petite action tellement simple, mais... de part et d'autre, une absence d'indifférence. De part et d'autre. La vie, tout à coup, qui s'est manifestée. Maintenant, il y a des fois où on doit être généreux par rapport à soi-même. Et que le don de la protection, eh bien, il doit être fait pour soi. Et qu'on a peut-être aussi en conscience des situations où on peut sentir un danger et le besoin de se protéger. Donc il y a toujours cet aspect, cette dimension de pouvoir évaluer la situation et de se rendre compte qu'il se peut qu'il y ait des moments où il y a des signaux très clairs de mise en danger. À ce moment-là, cette générosité, et elle est tout à fait mentionnée dans les textes, cette générosité, elle est pratiquée comme forme de protection pour soi-même. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Dans le Bouddha dit que le don du Dharma est le plus grand don, car il permet l'éveil, donc le fait de pratiquer. D'avoir cette situation-ci, d'avoir vraiment quelque part donné du temps, fait de l'espace dans nos vies, c'est un très grand don parce que ça permet d'élever notre potentiel humain, puis ensuite, naturellement, de laisser toute cette compréhension qu'on intègre progressivement, la partager avec autrui. Donc, dans le Dhammapada, c'est dit ainsi, c'est le don de la vérité excelle tous les dons. La saveur de la réalité dépasse toutes les saveurs. Le délice de la vérité transcende tous les délices. Se libérer de l'avidité est la fin de la souffrance. Donc c'est pas rien ce qu'on est en train de faire. On peut vraiment se réjouir. Se réjouir aussi de notre capacité à pouvoir faire des choix. Il y a vraiment de ça. Et je vais terminer avec un petit texte de Sharon Salzberg qui dit « Se réjouir de notre capacité à pouvoir faire des choix. cultiver ce qui est bon, lâcher ce qui nous nuit et est cause de souffrance, nous donnera la confiance et la joie de continuer à pratiquer, de faire les choses qui sont parfois difficiles et pas courantes pour nous. Continuons de nous réjouir dans la générosité, nous nous libérons plus profondément. Aucun de nous ne peut faire les choses parfaitement. Il s'agit d'une pratique. Vous entendez? Tant qu'on n'est pas complètement éveillé, il s'agit d'une pratique. Et je m'inclus complètement là-dedans, toujours en cours. Nous pratiquons la générosité avec les autres et avec nous-mêmes, encore et encore. Et ces pouvoirs grandissent jusqu'au point qu'elles coulent presque comme une cascade. C'est ce que nous devenons. C'est ainsi que nous serons à même de ressentir et d'approfondir une liberté vraie et authentique, qu'on peut aussi appeler bonheur.